Bonjour à tous. Je tiens en premier lieu à féliciter le comité d'organisation pour cette belle session de formation et puis à les remercier de leur invitation. Alors l'objectif de ma contribution aujourd'hui, c'est donc, comme vous l'avez dit, de vous exposer le travail de thèse en sociologie que j'ai réalisé de 2007 à 2014 sur la laïcité dans les écoles publiques, et puis plus particulièrement de vous faire part donc de l'enquête de terrain qualitative que j'ai menée dans 25 collèges et lycées publics de la ville de Strasbourg. Et donc, dans le cadre de ce terrain, j'ai réalisé des observations ethnographiques et j'ai aussi interviewé donc une cinquantaine d'acteurs scolaires au profil assez varié, c'est-à-dire des chefs d'établissement, comme vous l'avez dit, mais aussi des inspecteurs académiques, des inspecteurs de l'éducation nationale et puis des professeurs CPE, en passant par les équipes médicales aussi et puis le personnel de la restauration scolaire. Donc où j'ai essayé vraiment d'être exhaustive dans mon appréhension du phénomène de la laïcité à l'école. Alors lorsque j'ai entamé ce travail, je suis partie du constat que finalement il existait très peu de travaux qui vont s'intéresser à cette dimension micro-sociologique de la laïcité à l'école, donc c'est-à-dire à sa dimension pratique et surtout quotidienne, et donc à la manière dont les professionnels du secteur scolaire vont se saisir de cette problématique. Et donc dans l'objectif de mon travail de thèse, j'ai essayé d'appréhender la manière dont les professionnels vont encadrer les signes religieux, donc la manière dont ils vont mettre en application la loi de 2004 sur l'interdiction du port de signes ostentatoires, et puis aussi comment ils vont encadrer la pratique religieuse des usagers, hein, les différentes formes d'expression religieuse qu'on peut observer notamment dans le cadre de l'alimentation, mais aussi de la pratique sportive, la manière dont ils vont gérer la période de Ramadan, etc. Et de façon plus générale, comment ils vont organiser quotidiennement le vivre ensemble. Donc, j'ai cherché à appréhender la laïcité sous un angle cognitif, c'est-à-dire comme une croyance au sens large, c'est-à-dire comme des représentations finalement des valeurs du vivre ensemble, de la laïcité, de la liberté, de l'égalité, de l'État républicain, etc. Donc des contenus de croyance qui vont faire sens pour les professionnels scolaires, et puis la laïcité aussi sous l'angle de pratiques quotidiennes qui vont s'inscrire dans des contextes spécifiques. Donc dans cette contribution, je vais essayer de répondre aux questions suivantes. Donc comment les professionnels scolaires mettent-ils en application la laïcité au quotidien? Et comment conçoivent-ils la laïcité d'un point de vue moral et cognitif? Alors, dans un premier temps, je vais donc aborder plutôt la laïcité d'un point de vue pratique, hein, ce que vous faire part des résultats de mon enquête. Et puis, dans un second temps, j'aborderai la laïcité d'un point de vue cognitif. Et donc, je vous ferai état des contenus, si vous voulez, de croyances que revêt la laïcité pour les professionnels scolaires. Et puis, donc, en dernier lieu, j'essaierai de m'interroger sur les apports de ce travail par rapport à la problématique qui nous concerne aujourd'hui des discriminations et de la mise en application de la laïcité. Alors, pour commencer, quelques éléments contextuels, tout d'abord, par rapport au travail de terrain que j'ai réalisé. Puisque donc j'ai en effet réalisé mon travail de terrain dans des collèges et lycées publics de la ville de Strasbourg, donc dans un espace, l'Alsace-Moselle, qui présente un régime de laïcité spécifique, hein, puisque je rappelle que l'Alsace-Moselle se caractérise par un régime de droit local concordataire, hein, qui consiste en une séparation incomplète de l'Église et de l'État, puisqu'on va reconnaître publiquement et on va subventionner les cultes reconnus, donc catholiques, juifs et protestants. Alors, en ce qui concerne l'école publique, c'est la loi Falloux de 1850 qui n'a pas été abrogée en Alsace-Moselle par les lois Jules Ferry, notamment de 1882, de sorte que subsiste à l'école publique sur ces territoires un enseignement religieux. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de cet enseignement religieux? Comme nous l'expose Jean-Paul Willem, il est largement désaffecté puisqu'on observe même pas 10% des lycéens, un petit peu plus en collège, qui suivent cet enseignement. Et puis d'autre part, évolution notoire, cet enseignement religieux, il est de moins en moins confessionnel, mais il va de plus en plus prendre la forme d'un enseignement transversal de culture religieuse. Donc, ce qui va rejoindre les observations qu'on fait de façon plus générale sur le territoire européen. Donc tout ça pour dire que ce que j'ai observé dans le contexte strasbourgeois, ce n'est pas si spécifique que ça, et cela renvoie à ce qui se déroule plus largement sur le territoire national, et que même s'il y a ce contexte spécifique du régime de laïcité, il faut malgré tout relativiser le poids du contexte local. Et d'ailleurs, on peut citer une enquête qui a été réalisée par Prisca Robitzer, qui a comparé les représentations de la laïcité entre les franciliens et les alsaciens, et qui n'a pas abouti à la conclusion qu'il y avait une distinction notoire entre ces deux populations. Je fais ces précisions parce que on a souvent tendance à surévaluer le poids du contexte local alsacien en matière d'organisation de la laïcité, qui existe certes, qui est spécifique, mais qui, pour le cas scolaire, doit être largement relativisé. D'autre part, le contexte strasbourgeois va présenter des spécificités qui en font un laboratoire sociologique éclairant pour étudier la question de la mise en application de la laïcité. Pour trois raisons essentielles. Déjà, il s'agit d'un contexte particulièrement multiculturel, puisque la région Alsace est la deuxième région du classement national, donc après l'Île-de-France, à concentrer une part importante de population issue de l'immigration, puisque la présence d'immigrés va s'élever à 10% en Alsace contre 8,1% pour la moyenne nationale. Je reprends ici les chiffres de l'enquête INSEE de 2006. Et puis, pour l'agglomération strasbourgeoise, on atteint une proportion de 12,9% de population issue de l'immigration. Donc un contexte de pluralité culturelle, religieuse et ethnique, qui en fait un espace éclairant pour saisir les logiques plus générales d'organisation du vivre ensemble. Et puis d'autre part, la région Alsace, c'est aussi celle où les cas de conflits liés au port du voile avant la promulgation de la loi de 2004 ont été les plus nombreux en France, puisqu'on note en effet que 17 cas ont eu lieu dans l'académie de Strasbourg sur 43 cas au niveau national, donc presque la moitié qui ont eu lieu dans l'académie de Strasbourg. Ce qui en fait, de fait, un terrain d'enquête particulièrement éclairant pour analyser aussi les conditions de mise en application de la loi de 2004. Et puis en dernier lieu, eh bien cette coexistence entre d'un côté un régime de droit local, un régime spécifique de laïcité, qui va prendre donc, comme je vous le disais, pour le cas scolaire, la forme d'un enseignement religieux à l'école publique, et puis de l'autre l'existence de principes juridiques nationaux, comme la loi de 2004, eh bien, va constituer un facteur de révélation des croyances et des pratiques laïques, puisqu'il va inciter finalement les acteurs scolaires à s'interroger et à se positionner quant aux différentes représentations de la laïcité. Donc, compte tenu de ces caractéristiques du contexte strasbourgeois, j'ai privilégié le travail de terrain, donc dans 25 établissements scolaires, essentiellement des collèges mais aussi des lycées, et donc des établissements scolaires où la mixité sociale, religieuse et ethnique est particulièrement significative et qui concentre aussi une part importante de populations issues de l'immigration essentiellement turque et maghrébine, mais aussi d'Afrique et des pays d'Europe de l'Est, et où l'islam s'est révélé particulièrement visible. Alors, qu'en est-il de la mise en application quotidienne de la laïcité par les professionnels scolaires ? Et donc pour répondre à cette question, j'aborderai deux phénomènes que j'ai observés, l'encadrement des signes religieux, et en particulier la manière dont est mise en application la loi du 15 mars 2004, et puis l'encadrement des formes d'expression religieuse des usagers, qui vont se rendre particulièrement visibles dans le cadre de l'alimentation, de la pratique sportive ou encore de la période de la gestion du ramadan. Alors, par rapport au signe religieux et à la mise en application de la loi de 2004. Donc, j'ai débuté mon terrain en 2007, soit 3 ans après la promulgation de la loi de 2004. Et ce que j'ai pu observer d'emblée, c'est une banalisation, une routinisation de la mise en application de la loi, même si les professionnels m'ont fait part du contexte de tension dans lequel la loi s'est inscrite. Alors, j'ai pu observer que les établissements scolaires ont mis en place des dispositifs assez hétérogènes lors de la promulgation de la loi, pour s'assurer notamment de sa bonne mise en application. Par exemple, dans un collège, j'ai pu observer qu'on avait sollicité l'imam pour venir expliquer le bien fondé de cette loi, donc dispositif assez original. Dans un autre établissement, on a pu faire appel aussi à un dispositif que j'ai retrouvé dans d'autres établissements d'ailleurs, mais où on a mis un espace, on a mis en place un espace transitionnel, donc où les jeunes filles pouvaient se changer. Dispositif qui a duré pendant plusieurs années suite à la mise en place de la loi. Et puis de manière plus générale, voilà la sollicitation plutôt de personnes de la hiérarchie scolaire pour venir expliquer le bien fondé de la loi. Donc des dispositifs hétérogènes lors de la promulgation de la loi, mais aussi en parallèle de cette banalisation de la loi, de cette routinisation, l'émergence aussi de zones d'incertitude et d'ambiguïté dans le cadre de la mise en application de la loi, et qui vont concerner 3 situations. Le statut des intervenants extérieurs, qu'il s'agisse de parents d'élèves qui accompagnent les sorties scolaires, de parents d'élèves délégués aussi, d'intervenants associatifs. Donc on se pose la question de ces personnes doivent-elles être assimilées au statut de fonctionnaire et donc concernées par l'impératif de neutralité. La seconde zone d'incertitude, c'est le déroulement des manifestations extrascolaires, donc qui va poser la question de la limite, de la frontière à établir entre l'espace scolaire et l'extérieur, ou de la porosité de cette frontière en tout cas. Et puis enfin, dernière zone d'incertitude, le cas des d'ambiguïté plutôt, le cas des établissements qui font office de centre d'examen, et donc qui vont accueillir à cette période des personnes au statut différencié, qui sont soit scolarisés à domicile ou soit scolarisés dans le privé. Alors, par rapport à ces zones d'incertitude et d'ambiguïté, j'ai pu observer, là encore, des dispositifs assez hétérogènes qui vont être mis en place et qui vont osciller entre une tolérance des signes religieux et, à l'inverse, une prohibition. Hein, par exemple, dans certains établissements scolaires, on interdit aux parents d'élèves d'être voilés lors des réunions parents-profs. Hein, alors même qu'ils ne sont pas concernés par la loi de 2004. A l'inverse, dans d'autres établissements, on va autoriser que des parents d'élèves délégués soient voilés lors des réunions. Donc une mise en application plus ou moins souple de la loi et qui va permettre de distinguer 2 attitudes, 2 tendances typiques. Donc une attitude qui est plutôt littérale dans sa mise en application de la loi, hein, qui va systématiquement interdire tout signe religieux, quitte à être dans l'illégalité, hein, pour le cas des parents d'élèves qui ne sont pas autorisés à porter un signe religieux lors des réunions parents-prof, par exemple, quitte aussi à ce que cela génère de vives tensions et des réactions sociales au nom d'une conception donc, de la loi qui va assimiler cette expression religieuse des usagers comme un obstacle à la laïcité et aux valeurs de la République. Et puis de l'autre, une attitude conséquentialiste, peut-on dire, où les acteurs vont appréhender la loi finalement en fonction de ses effets, de ses conséquences, et qui vont penser la loi en fonction d'un rapport entre les moyens de l'action, et en l'occurrence la mise en application de la loi, et les objectifs, en général éducatifs, plus généraux qu'ils vont se fixer. Et donc là, cette attitude, elle va être beaucoup plus encline à la mise en place d'aménagements, de compromis, qui sont certes locaux. Et donc, par exemple, ce chef d'établissement qui autorisait donc ce parent d'élève délégué à être voilé, car il considérait que son attitude n'étant pas prosélyte, eh bien, le fait d'accepter ce signe religieux allait plus largement concourir à intégrer une diversité à l'école. Et d'ailleurs, donc on va retrouver ces deux tendances, ces deux manières d'envisager la question des signes religieux dans les prises de position du gouvernement. On se souvient de cette opposition entre la circulaire Châtel donc de 2012 qui avait interdit le port de signes religieux pour les accompagnateurs de sortie scolaire, alors que le gouvernement actuel a réaffirmé la nécessité de les autoriser. Donc ces deux tendances, j'ai pu les observer sur mon terrain. D'un côté, celle qui va chercher, comme on a déjà parlé hier avec Françoise Lorcerie, cette tendance qui va chercher à étendre systématiquement l'impératif de neutralité des fonctionnaires à tout le monde, donc comme c'est déjà le cas aux élèves depuis la loi de 2004, mais aussi aux intervenants extérieurs et aux personnes accompagnant les sorties scolaires. Et puis de l'autre, cette tendance beaucoup plus sensible à la question de l'effet de la loi et des discriminations qu'elle peut générer, et qui va donc tolérer le port de signes religieux pour les accompagnants de sortie scolaire ou pour des parents d'élèves délégués, au nom de ce principe donc de non-discrimination. La deuxième zone d'incertitude de la mise en application de la loi, c'est donc ce cadre extrascolaire. Comment fixe-t-on finalement les limites de l'espace scolaire? Alors pour certains, cette frontière, elle est spatiale, et puis pour d'autres, elle est fonctionnelle. Et on va retrouver là encore des dispositifs assez hétérogènes selon les situations. J'ai pu observer par exemple que dans certains contextes, on va autoriser le port de signes religieux dans des contextes qui sont considérés comme extrascolaires, par exemple tout ce qui est fête de fin d'année, manifestation culturelle à but festif, on va dire, et convivial. Et là donc ces chefs d'établissement, ces équipes scolaires vont tolérer le port de signes religieux en justifiant donc de cette distinction fonctionnelle des espaces. On n'est pas dans un contexte de transmission du savoir. Et les objectifs de cette manifestation étant festifs et conviviaux, eh bien, on estime par conséquent que on se doit de tolérer les signes religieux des usagers. Et à l'inverse, on va observer donc une distinction plus spatiale des espaces, où dans le cadre de ces mêmes fêtes de fin d'année, on va à l'inverse considérer que cette manifestation est organisée par l'établissement scolaire, se destine au public de l'établissement scolaire, fait partie intégrante de l'espace scolaire et que par conséquent, la loi se doit d'y être appliquée. Donc on voit c'est une certaine zone ambiguë et floue, et la porosité de cette frontière entre un espace scolaire et l'extérieur. Et puis la dernière zone d'incertitude, c'est le cas donc des établissements scolaires qui vont faire office de centres d'examen et qui vont recevoir à ce titre des élèves scolarisés à domicile ou provenant du privé aussi. Et donc comme il est précisé dans la circulaire du 18 mai 2004, par rapport à cette loi du 15 mars 2004 qui, je cite, donc ne s'applique pas non plus aux candidats qui viennent passer les épreuves d'un examen ou d'un concours dans les locaux d'un établissement public d'enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait les élèves de l'enseignement public. Et donc par rapport à cette situation, j'ai pu observer qu'il était très délicat, très ambigu au niveau de l'organisation des infrastructures, de faire cohabiter dans le même espace des personnes au statut différencié, des personnes qui ne sont pas autorisées à porter des signes religieux et d'autres qui le sont. Donc des situations qui montrent que si la loi de 2004 a pu générer une certaine forme de routinisation dans l'encadrement des signes religieux, elle a aussi fait émerger des zones d'ambiguïté, des zones d'incertitude que les équipes scolaires sont amenées à régler et à prendre en charge. Alors, qu'en est-il maintenant de la manière dont les acteurs scolaires vont encadrer l'expression religieuse des usagers ? Et donc, globalement, par rapport à ce que j'ai pu observer, on peut dire que les acteurs scolaires vont adopter une attitude plutôt ouverte vis-à-vis des manifestations religieuses à l'école. Je précise, tant que celles-ci restent compatibles avec la participation aux activités scolaires. Alors, en effet, j'ai pu observer de nombreux aménagements, des arrangements quotidiens qui vont reposer sur des compromis, des négociations qui sont tacites la plupart du temps et qui vont globalement témoigner du fait que l'appartenance religieuse des usagers est perçue comme quelque chose de légitime, qui fait partie intégrante de la personne et qui constitue donc un droit d'être exprimé dans les limites de ce que les individus vont concevoir comme religieusement acceptable. Et donc j'ai pu observer qu'on élaborait une frontière entre cette conception de ce qu'est le religieusement acceptable et de ce qui ne l'est pas, de ce que l'on peut concevoir finalement comme une norme laïque implicite, et qui va renvoyer, comme je le disais, à cette compatibilité entre l'expression religieuse et la participation à des activités scolaires. Alors, pour vous donner des exemples d'aménagement de l'expression religieuse que j'ai pu observer, c'est par exemple un professeur d'EPS pour qui il est légitime d'adapter ses exigences pendant la période de Ramadan, et qui va tenir compte donc de l'état physique des élèves, et qui va permettre en parallèle aux élèves de repasser éventuellement l'examen ultérieurement. C'est aussi le cas d'un professeur qui va veiller pendant cette période de Ramadan à ne pas boire ou manger devant les élèves, à s'assurer s'il fait chaud que la salle de classe est bien aérée, quitte à mettre un ventilateur, etc. Enfin, tout un dispositif qui montre voilà, des aménagements et qui traduisent plus généralement le fait que l'expression religieuse des usagers, des élèves, est perçue comme légitime. C'est aussi le cas du personnel de la cantine et du responsable de la cantine qui va veiller à ce qu'il y ait systématiquement un plat de substitution de la viande. C'est aussi le cas, par exemple, de l'équipe éducative à l'internat qui va accompagner les élèves pratiquants à la cantine à la tombée de la nuit. On peut aussi évoquer l'exemple encore à l'internat d'assistants de vie scolaire pour qui il est légitime de laisser certains élèves prier le soir dans leur chambre. Et puis plus généralement, c'est le cas aussi de professeurs qui vont parler volontiers de l'appartenance religieuse des élèves avec une liberté de ton, etc. Et où le religieux est envisagé comme une composante identitaire essentielle de l'élève. Donc tous ces exemples tirés du terrain, ils montrent que la laïcité consiste en une mise en application conditionnelle, c'est-à-dire au cas par cas, qui va reposer sur des compromis, des accords tacites, implicites, et donc sur des aménagements qui vont être mis en place en fonction de cette représentation, de cette norme laïque implicite, de ce qu'est le religieusement acceptable, et donc en fonction de cette frontière entre l'expression religieuse et sa compatibilité avec la participation aux activités scolaires. Donc d'un côté, on a des aménagements de l'expression religieuse qui sont assez informels, localisés, qui vont dépendre des interactions quotidiennes entre les membres des équipes scolaires. Mais ces dispositifs, ces aménagements, ils peuvent aussi prendre une forme plus institutionnalisée, comme c'est le cas, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, des établissements qui, avant la promulgation de la loi de 2004, avaient défini, donc, décider de mettre en place ce dispositif, cet espace de transition où les élèves pourraient s'y changer. Et donc cet aménagement, il est plus formel puisqu'il résulte d'une prise de décision, hein, d'une délibération collective. Et puis, par rapport à ces aménagements plus institutionnalisés, on peut aussi citer donc le cas de la ville de Strasbourg, qui a mis en place dans ses restaurants municipaux, donc pour les écoles primaires, un accès à une viande halal, un menu halal. Alors ce dispositif, il a été mis en place en 1999 par Catherine Trottmann, qui était donc à l'époque maire de Strasbourg, et il est toujours d'actualité. Et alors certains, on peut s'interroger, cela se discute, certains peuvent y voir une atteinte au principe de laïcité, de neutralité de l'espace scolaire. Néanmoins, pour avoir interviewé Catherine Trottmann, elle justifie la mise en place de ce dispositif, hein, en fonction justement d'objectifs laïques et comme un moyen d'assurer à la fois la liberté de conscience et de culte des usagers, mais aussi de souscrire au principe de non-discrimination. Et donc voilà un exemple d'arrangement plus formel, plus institutionnalisé, qui va traduire une volonté politique de répondre à des demandes religieuses, mais aussi d'inscrire les principes de liberté de conscience et de non-discrimination dans la réalité concrète. Alors, tous les exemples que je viens d'évoquer, donc, ils traduisent l'hétérogénéité des aménagements de l'expression religieuse à l'école, qui donc, comme je le disais, vont d'aménagements plus locaux, informels, à des aménagements plus institutionnels. Et en parallèle de tous ces aménagements de l'expression religieuse, on voit aussi des attitudes qui ont pour but d'encadrer et de limiter cette expression religieuse et d'y poser un terme. Alors, quelle est cette frontière justement qui est instaurée entre ce qui est religieusement acceptable et ce qui ne l'est pas ? C'est, comme je vous le disais, cette compatibilité entre la pratique religieuse et la participation aux activités éducatives. Pour vous donner un exemple, le cas d'un chef d'établissement qui refuse de décaler le cross scolaire qui tombe donc pendant la période de Ramadan, car il estime que l'école publique laïque n'a pas à tenir compte de l'appartenance religieuse des élèves et n'a pas à organiser son fonctionnement en fonction de la pratique des usagers. Tous les cas aussi de rappel à l'ordre lors de la promulgation de la loi de 2004. Et puis aussi tous ces exemples que les acteurs scolaires ont pu me citer, des jeunes par exemple qui crachent pendant la période de Ramadan, qui refusent de consommer un repas prévu pour tout ce qui est certifié halal, qui vont contester des connaissances à partir d'une lecture religieuse des phénomènes, qui vont rater le brevet parce que celui-ci intervient pendant la période de Ramadan. Et donc, globalement, toutes ces situations que les équipes scolaires vont interpréter comme une instrumentalisation du religieux par les jeunes pour soit alors contester l'autorité institutionnelle de l'école ou encore l'autorité du savoir scientifique, et qui vont constituer donc des arguments, c'est pour ça qu'ils les perçoivent en termes d'instrumentalisation du religieux, comme des arguments, des prétextes pour ne pas participer justement aux activités scolaires. Et donc là, on voit que dès qu'on est dans cette frontière entre la participation aux activités, enfin le refus de participer aux activités scolaires, les acteurs scolaires vont tracer une frontière nette et vont refuser l'expression de cette religion qui du coup est perçue comme non acceptable. Donc on voit bien que cette mise en application de la laïcité, elle va renvoyer à une norme laïque qui est certes fluctuante selon les contextes et puis les acteurs en présence, qui est implicite et qui va donc s'appuyer sur cette conception du religieusement acceptable, non acceptable, et qui va dépendre de la compatibilité entre l'expression religieuse et les activités scolaires. Et puis, de manière plus générale, j'ai pu observer donc que cette norme laïque implicite, elle va bien souvent reposer sur un équilibre social fragile, fragile, dans le sens où il est difficile de le remettre en question lorsqu'il a été mis en place, et il va générer des tensions, des ressentiments lorsqu'il est remis en question. Alors pour vous donner un exemple, j'ai pu observer donc lors du déroulement d'une fête de fin d'année dans un lycée, une évolution de cette norme implicite qui avait été mise en place lors du changement de direction. Donc l'ancien proviseur avait établi que lors de cette fête de fin d'année, qui accueille donc les parents d'élèves, les élèves et les équipes scolaires, qu'on ne mettrait pas en application la loi de 2004, puisque, comme je vous le disais précédemment, on était dans un espace extrascolaire, festif, convivial, et qu'on était désengagé des objectifs de transmission du savoir, etc. Dispositif donc qui avait été mis en place pendant plusieurs années durant. Et puis, lors du changement de direction, le nouveau proviseur qui estime à l'inverse qu'on est bien dans un espace scolaire et qu'il faut mettre en application la loi. Et donc un équilibre fragile dans la mise en application de cette norme implicite, puisque cela a généré donc beaucoup d'incompréhension chez les jeunes filles voilées notamment, qui déjà avaient du mal à percevoir cette ambiguïté de on laisse les parents d'élèves, donc en l'occurrence ma mère a le droit de venir voilée, mais moi je n'ai pas le droit. Et puis encore autour de cette question de la représentation des frontières de l'espace scolaire, puisque elles avançaient l'argument qu'on n'était pas dans une salle de classe et qu'on était désengagé de ses objectifs éducatifs, et que par conséquent c'était un peu dur de ne pas les autoriser à porter le voile. Donc tout ça pour montrer que voilà, cette norme implicite, elle va reposer sur un équilibre aussi social fragile, hein, de compromis, d'accord tacite, qu'il n'est pas facile de remettre en cause, et qu'il existe une frontière mouvante entre ce permis, ce toléré et cet interdit en matière d'encadrement de l'expression religieuse. Alors tout ce que j'ai pu observer sur le terrain, en termes donc d'encadrement des signes religieux ou de l'expression religieuse, cela renvoie au contexte et aux acteurs en présence, mais cela renvoie aussi surtout à des conceptions, des représentations de ce qu'est la laïcité. Conceptions de la laïcité qui vont traduire de façon plus générale des modèles philosophiques et politiques qui vont faire sens pour les individus, et qui vont constituer des guides de l'action quotidienne, qui vont orienter les pratiques. Donc finalement, ce débat sur la laïcité à l'école, il va renvoyer de façon plus générale à un débat philosophique, politique et moral, de comment on conçoit le vivre ensemble, quel est le meilleur modèle d'organisation sociale et politique, et quel est le rôle de l'école publique dans ce contexte. Et donc là, ce n'est pas nouveau, mais mon travail a permis d'attester donc de cette existence de deux tendances typiques chez les professionnels scolaires, deux conceptions de la laïcité qui vont se justifier plus généralement par une philosophie politique. Alors d'un côté, la tendance libérale, et puis de l'autre, la tendance que je préfère appeler communautarienne. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qui est ressorti des discours des acteurs scolaires sur ces deux représentations de la laïcité. Donc cette première forme idéale typique de laïcité qui est dite communautarienne, donc là je fais référence à la terminologie qui est employée par Will Kimlicka, et puis à la notion aussi de communauté de citoyens de Dominique Schnapper. Alors aujourd'hui on parle plus volontiers de laïcité néo-républicaine, mais je trouve que le terme de communautarienne est plus adapté, même si on sait que le terme communautarien est fortement connoté négativement dans le sens commun. Il me semble que ce terme est plus approprié, puisque les libéraux, eux aussi, vont défendre une conception forte de l'État républicain. Et donc, cette conception de l'État républicain, elle n'est pas l'apanage des néo-républicains. Hein. Et donc, je trouve que le terme de communautarien est aussi plus adapté, parce que l'essence de ce modèle politique, c'est justement la référence à la communauté nationale, hein, des citoyens, qui va être à l'origine du lien social et de l'intérêt général. Alors, cette conception communautarienne de la laïcité, hérité notamment de la Troisième République, elle repose sur quatre points principaux qui sont ressortis donc du discours des acteurs scolaires que j'ai interrogés. Le premier point, c'est une représentation hétéronome du sujet démocratique, donc en opposition à son autonomie. On considère dans ce contexte que le sujet démocratique doit s'émanciper par rapport à son appartenance familiale, communautaire, et qu'il doit s'inscrire dans des cadres plus généraux, dans des cadres de référence moraux, hein, mais aussi en termes de savoir, et donc là, l'institution scolaire va avoir un rôle clé. C'est en s'émancipant donc de cette appartenance première et en accédant à ces cadres de référence collectifs, en termes de savoir ou de valeur, de morale, que l'individu va pouvoir accéder à la liberté de penser et devenir un sujet critique et éclairé. Donc une représentation hétéronome du sujet démocratique. Le deuxième point, c'est une représentation transcendante de l'État républicain. On considère que l'État républicain est à l'origine de la cohésion sociale et que c'est l'État qui va assurer l'intégration de l'individu à une communauté de citoyens indifférenciés et égaux en droit. Le troisième point qui définit cette laïcité communautarienne, c'est de revendiquer une conception universaliste de la citoyenneté. On va considérer qu'il faut retrancher les particularismes identitaires dans la sphère privée pour pouvoir vivre ensemble, mettre en avant nos similitudes plutôt que nos différences. Et puis enfin, cette laïcité communautarienne, elle va impliquer une différenciation des espaces et elle va établir une frontière symbolique entre l'espace public de l'État, qui va être dédié donc à l'intérêt général, etc., et la sphère privée, où la spécificité, les spécificités individuelles doivent être circonscrites. Et donc on va le voir, la conception libérale de la laïcité est opposée sur tous les points à cette conception communautarienne. Donc la laïcité libérale, à l'inverse, elle va reposer sur une conception autonome du sujet démocratique. On va considérer que seul l'individu est à même de choisir ses opinions, ses valeurs, ses croyances. Et on va envisager dans ce cadre-là la liberté de conscience comme un droit de l'individu à s'autodéterminer, à se forger par lui-même. D'autre part, cette conception libérale de la laïcité, elle va impliquer une conception non pas transcendante, mais immanente de l'État républicain, où on va refuser toute sacralisation de l'État et on va envisager l'État comme une instance de protection des droits, des libertés et de régulation de ces libertés au nom de l'égalité. Troisièmement, cette conception libérale, elle va impliquer une continuité, et non pas une différenciation, entre l'espace de l'État, l'espace institutionnel, et la société civile. Donc dans ce cadre-là, on va penser l'école non pas comme un sanctuaire fermé sur lui-même, mais une école ouverte sur la société civile et perméable à ses logiques. Et en dernier lieu, on va envisager la citoyenneté, non pas sous un angle universaliste, mais sous un angle individualiste. Et on va laisser un espace d'expression aux spécificités individuelles. Ces deux modèles, donc deux conceptions de la laïcité, mais aussi deux modèles philosophiques au niveau plus général, vont envisager aussi différemment cette question de la discrimination. Puisque dans la lecture communautarienne, on va considérer que c'est en assurant l'indifférenciation des individus, donc en gommant les signes de distinction, que l'on va garantir le principe de non-discrimination. Alors que, à l'inverse, dans la lecture libérale, c'est justement en prenant en compte les spécificités des individus, donc en assurant leurs droits et leurs libertés, que l'on va garantir ce principe de non-discrimination. Donc on voit là au niveau philosophique et politique deux lectures, deux manières d'envisager la problématique qui s'inscrivent dans des modèles plus généraux. Et donc pour donner un exemple, pour illustrer ce phénomène par rapport à l'alimentation, hein, on sait que dans la ville de Lyon, on a privilégié le menu végétarien. Donc quelque chose que tout le monde peut manger et qui se présente de fait comme une indifférenciation des individus qui va permettre de garantir le principe de non-discrimination. Alors qu'à l'inverse, à Strasbourg, comme je vous l'évoquais précédemment, on a considéré, plutôt dans une lecture libérale, que c'est en reconnaissant les spécificités individuelles qu'on allait garantir justement ce principe de non-discrimination. Alors, pour comprendre comment les acteurs scolaires mettent en application la laïcité, il faut tenir compte, certes, de ces conceptions différentes que je viens d'évoquer, mais aussi de la dimension pratique de ces conceptions plus générales du vivre ensemble et de la laïcité, puisque j'ai pu observer que des individus qui allaient défendre une conception semblable de la laïcité n'allaient pourtant pas la mettre en pratique de la même manière. Et donc il faut tenir compte de cette mise en application des valeurs pour comprendre et expliquer les pratiques que l'on peut observer quotidiennement. En effet, j'ai pu observer que certains individus allaient mettre en pratique toute cette conception du vivre ensemble, de la laïcité, etc., en fonction d'une éthique de responsabilité. À l'inverse d'individus qui allaient mettre en pratique la laïcité en fonction d'une éthique de conviction. Donc je reprends cette distinction de Max Weber. Alors, l'éthique de responsabilité, c'est une manière donc de mettre en application des valeurs où on va être attentif aux conséquences de l'action, aux effets de l'action. Et on va surtout être attentif à ce rapport entre les moyens de l'action qui sont choisis et les objectifs que l'on se fixe. Et c'est globalement une attitude qui va beaucoup plus aussi tenir compte des paramètres du contexte dans lequel on agit. Et donc cette éthique de responsabilité, cette manière de mettre en application les valeurs, elle va être beaucoup plus encline à mettre en place des arrangements, des compromis, beaucoup plus ouverte à la négociation, etc. Et elle va envisager la laïcité et sa mise en application en fonction de ce rapport entre les moyens de l'action et leurs effets en fonction des objectifs qui sont fixés. Je vous donnerai des exemples ensuite pour illustrer. Et de l'autre côté, on a donc cette autre manière de mettre en application la laïcité et qui renvoie à l'éthique de conviction. Et donc là, on ne se pose pas la question des effets de l'action, du rapport entre les moyens de l'action choisis et les objectifs. Ce qui importe, c'est l'adéquation entre les actions et un système de valeurs plus général. C'est la question de la cohérence axiologique et normative qui est au cœur de cette modalité d'action. Et donc, en croisant ces deux conceptions de la laïcité et ces deux manières de la mettre en application, j'ai abouti donc à une typologie des professionnels scolaires dans laquelle vous allez sûrement vous retrouver, Et donc j'ai abouti à 4 types de professionnels. Alors le premier, c'est le responsable libéral, qui va donc défendre une conception libérale de la laïcité et la mettre en application sur le mode de l'éthique de responsabilité. Et la situation pour illustrer cette logique, c'est par exemple le chef d'établissement qui va décider de mettre à disposition des élèves voilés cet espace transitionnel pour qu'ils puissent s'y changer. Pour qu'elles puissent s'y changer, pardon. Donc si vous voulez, c'est un compromis qui est apparu comme un moyen efficace pour s'assurer de la bonne mise en application de la loi. Hein, donc on voit bien ce rapport entre une conception de la laïcité et une mise en application qui est considérée comme efficace. Hein. Il y a un rapport entre les moyens de l'action et les objectifs que l'on se fixe. La deuxième figure, c'est le libéral convaincu, qui lui donc adhère là encore à une conception libérale de la laïcité, mais va la mettre en application sur le mode de l'éthique de conviction. Et pour illustrer ce type, on peut citer le dispositif mis en place par Catherine Trottmann à Strasbourg d'un menu halal dans les cantines. Où là, c'est la question de la cohérence axiologique et normative qui est au cœur de ce mode d'action. Puisque Catherine Trottmann a justifié la mise en place de ce dispositif comme un moyen d'inscrire dans la réalité des valeurs plus générales de non-discrimination et de liberté de conscience et de culte. Le troisième type, c'est le responsable communautarien. Donc une conception communautarienne de la laïcité sur le mode de l'éthique de responsabilité. Alors pour illustrer ce type, on peut par exemple citer un chef d'établissement qui refuse, parce que j'ai été confrontée à cette question dans les discours des acteurs scolaires, qui refuse la mise à disposition d'un menu halal à la cantine, non pas parce que ce serait contraire à des principes moraux, mais parce que ça aurait pour conséquence de tenir compte de toutes les autres demandes, et ça générerait voilà, une forme d'escalade des demandes que le système ne pourrait contenter. Donc c'est par rapport aux effets du moyen de l'action qui est choisi que la laïcité est appréhendée, et non pas par rapport à un système de valeurs plus général et de est-ce que c'est laïque ou non de mettre à disposition un menu halal. Et enfin, dernier type, le communautarien convaincu, qui lui donc va défendre une conception communautarienne sur le mode de l'éthique de conviction. Et donc pour illustrer ce quatrième type, le chef d'établissement qui refuse d'aménager le cross scolaire en dehors de la période de Ramadan, parce que d'un point de vue normatif, il considère qu'il relève de la neutralité de l'espace scolaire que de ne pas tenir compte, que de ne pas s'organiser en fonction de la pratique religieuse des usagers. Alors, pour conclure rapidement par rapport à la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, il me semble que le débat sur la laïcité, il est aujourd'hui largement orienté sur ce registre justement axiologique, normatif, théorique, où on s'interroge sur quelle est la bonne conception de la laïcité à défendre. Et donc on a vu que le débat actuel va se polariser autour de cette dichotomie entre d'un côté une nouvelle laïcité et puis de l'autre une laïcité plus libérale. Pourtant, il me semble que s'il faut bien évidemment s'interroger sur cette dimension normative de la laïcité et condamner notamment les dérives idéologiques, les différentes lectures laïcistes qui peuvent être faites, il me semble qu'il faut réorienter le débat dans un registre beaucoup plus pragmatique, ce qu'on est en train de faire finalement aujourd'hui, en fonction de ces principes de l'éthique de responsabilité comme je le distinguais précédemment. C'est-à-dire qu'à mon sens, on a tendance à envisager cette question en fonction de l'éthique de conviction. C'est-à-dire, est-ce que cette conception de la laïcité qu'on met en application, elle correspond plus généralement avec notre système de valeurs, de comment on conçoit le sens de l'école, de la République, etc., de toutes ces valeurs. Alors que, on le voit dans les débats, et puis comme M. Bobéreau l'a encore rappelé dans son dernier ouvrage là sur les 7 laïcités, il est très difficile de trouver un consensus sur ces questions profondément normatives. Et nous sommes tous porteurs de valeurs et d'une conception philosophique du monde qui nous distingue et sur laquelle nous avons peut-être du mal à tomber tous d'accord. En revanche, dans ce registre de l'éthique de responsabilité, hein, qui va vraiment mettre l'accent sur la pratique, sur la question efficace des moyens qui sont envisagés et sur leurs effets aussi, il me semble que là, on peut trouver un espace de consensus. Et donc, comme Françoise Lorceri l'a rappelé hier aussi, qu'on voyait émerger de plus en plus dans le discours du gouvernement actuel et notamment celui de Najat Vallaud-Belkacem, une conception de la laïcité qui va être envisagée comme une pratique, comme des pratiques porteuses de sens. Une laïcité donc qui va présupposer une discussion démocratique et qui va surtout présupposer la participation de tous les citoyens pour se mettre d'accord sur des normes de mise en application consensuelles. Et je vais m'arrêter là.